Le plus difficile pour nous, c'est de voir les Russes arriver ici comme ça. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, en 2008, ils nous ont attaqués militairement. Ils ont toujours été contre nous. Ce n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question de dignité.
Les Russes ne sont pas forcément les bienvenus en Géorgie.
Au plus fort de l'exode, ils étaient 10 000 chaque jour à passer la frontière. Des Russes partis de chez eux pour échapper à la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine, décidés à passer en Géorgie, mais accueillis fraîchement de l'autre côté des barbelés par la population locale.
Ces gens-là, ils sont en train de déserter, ils sont en train de se fuir parce qu'ils ont le problème financier à cause des sanctions. Ils ne veulent pas reconnaître que la Russie elle a mené la guerre ici, que la Russie elle mène la guerre en Ukraine. Et du coup, ces gens-là, par contre, ils veulent vivre dans un confort, dans un environnement qui adapte à leurs demandes.
Dans ce petit pays de moins de 4 millions d'habitants, le conflit ukrainien ravive des souvenirs douloureux. La guerre civile de 1992, les affrontements entre indépendantistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, puis l'opération militaire éclair menée en 2008 par la Russie.
Cette fois-ci, tous les doutes sont levés. La guerre est ouverte entre la Russie et la Géorgie. Le président Dmitri Medvedev a été clair.
À l'époque, Dmitri Medvedev et Vladimir Poutine, à la tête du gouvernement russe, envoient des troupes dans le nord de la Géorgie. Les combats durent 5 jours, provoquent l'exode de 160 à 200 000 personnes. Le chiffre exact reste inconnu, tout comme le nombre de victimes. 160 à 1600 morts selon les sources. Pour légitimer l'intervention, Moscou évoque, comme pour l'Ukraine, la nécessité de défendre la sécurité des habitants. Aujourd'hui, la majeure partie des Géorgiens affiche leur soutien à l'Europe et aux Ukrainiens. Mais le pouvoir en place reste proche de Vladimir Poutine et d'une partie des oligarques russes.
Quand la guerre en Ukraine a commencé, la première chose qu'a dite notre Premier ministre, c'est « Voilà, c'est ce que l'Ukraine a récolté avec sa politique. » Quelle ironie ! Quel énorme mensonge !
C'est sur la ligne de démarcation, à Ernieti, dernier village avant l'Ossétie du Sud, que commence notre voyage. Géorgie, la première Ukraine, un reportage de Vanessa Descoureaux avec Irma Inaritze.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Dans un paysage un peu lunaire, où il n'y a pas grand-chose autour de nous, nous sommes le long de la frontière, la ligne de démarcation, les Géorgiens l'appellent la ligne d'occupation, parce que de l'autre côté des barbelés qui sont juste devant nous, de l'autre côté c'est l'Ossétie du Sud, c'est-à-dire l'une des deux provinces perdues par Tbilissi en 2008, province aujourd'hui occupée par les Russes, et on va suivre cette patrouille menée par deux volontaires, Gogla et David, ainsi que leur chien, et ils sont là pour sécuriser cette frontière.
David Katsavara, du mouvement anti-occupation, l'Union fait la force.
Pour quelles raisons vous organisez ces patrouilles? Vous êtes une vingtaine de membres actifs dans votre collectif anti-occupation. Pour quelles raisons vous surveillez et patrouillez le long de ces frontières?
Notre but était de compliquer la vie des Russes sur cette ligne et de ralentir leur processus d'occupation qui grignote peu à peu. Et nous avons réussi, car la vitesse à laquelle ils nous volent du terrain a ralenti. Avant, en avançant leur barbelé, ils nous prenaient illégalement 9 km par an. Aujourd'hui, c'est 3 km par an.
Ça veut dire que les Russes gagnent du terrain? Ce ne sont pas les frontières d'origine devant lesquelles nous sommes là? Ils ont grignoté?
Les occupants posent des barbelés, ils créent des barrières pour que cette occupation soit visible. Ils ne s'arrêtent pas aux lignes administratives, ils volent du terrain. Ils ne s'arrêtent pas aux lignes de frontières déclarées. Dans la plupart des cas, ils essayent d'avancer plus loin dans les terres côté géorgien, sur le territoire non occupé. Par exemple ici, là où nous sommes, avec cette méthode, les occupants ont avancé les barbelés. Ils nous ont enlevé 80 hectares de terre, soit 800 000 mètres carrés.
En résumé, ça veut dire que si je reviens dans 6 mois, par exemple, il est très possible que le barbelé là qui est juste devant nous soit encore plus loin, sur le territoire géorgien.
Dans la situation actuelle, si tu reviens dans 6 mois, la Géorgie peut être complètement occupée par la Russie. Malheureusement, c'est un danger réel.
Vous le redoutez sérieusement ou vous ne pensez pas que les Russes ont déjà beaucoup à faire en Ukraine ?
Mes doutes sont très sérieux. Je n'invente rien. Précisément parce que les Russes sont en difficulté en Ukraine et sont même en train de perdre la guerre. C'est là que le scénario d'une nouvelle intervention en Géorgie est crédible et que l'occupation de tout le pays est possible. Parce que la Russie a besoin d'une petite victoire pour satisfaire l'opinion publique, pour montrer qu'ils ont un succès quelque part.
Et c'est pour cette raison, parce qu'il y a toujours cette menace ici en Géorgie, que vous ne repartez pas combattre en Ukraine, parce que vous avez pris les armes à côté de vos frères ukrainiens au début du conflit.
Pour la majorité des Géorgiens, la guerre en Ukraine est notre guerre aussi. Avec mes amis, on n'a pas hésité à partir là-bas.
On nous a montré une petite guérite à une vingtaine de mètres de nous, hein, pas plus, guérite de 2 mètres sur 2, en nous disant que c'était là que les soldats russes se positionnaient pour surveiller la frontière de leur côté. Ah. Oh. David signale qu'il y a une villageoise qui vit dans cette maison. C'est une belle journée d'automne, les chiens sont assoiffés, on n'entend que lui au micro. Mais on est venu parler avec vous. Manana, c'est votre prénom ?
Oui, Manana.
Vous savez combien de mètres ils ont grignoté depuis 2008, depuis la guerre ? Ça représente combien ?
Oui, c'est vrai, ils grignotent du terrain. Non seulement la maison de notre voisin, mais une autre maison aussi, et encore d'autres terrains. La maison de notre voisin date à papa, de son frère. Notre cimetière, le cimetière du village, nos endroits sacrés sur la colline et nos pâturages. Nos vaches allaient se nourrir là-bas.
Vous avez des proches de votre famille enterrés dans ce cimetière ?
Ma belle-mère, mon beau-père, mon beau-frère, le fils de ma belle-sœur et d'autres proches. Ils sont tous enterrés là-bas. Ils nous interdisent d'y aller.
Qu'est-ce que vous risquez si vous tentez d'aller sur les tombes de vos proches ?
Ils t'arrêtent et ils te mettent en prison. Ils te gardent un moment. Mais tout est barré avec leurs barbelés. Comment veux-tu qu'on y aille ?
Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
C'est pas normal. Mais qui s'intéresse à ce que je pense ? Je ne peux pas aller voir mes proches, leur rendre visite de l'autre côté. C'est impossible de faire des allers-retours.
Est-ce qu'un jour, vous n'avez pas peur qu'ils grignotent aussi votre maison, jusqu'à votre maison ?
Comment savoir ce dont ils sont capables ? Qui sait ? Personne ne sait. Personne ne sait ce qui va se passer demain.
C'est une menace permanente pour vous ?
Moi, je ne sors plus de chez moi. J'ai mal aux jambes. Je ne sors que dans mon jardin.
Alors, on revient vers vous, David, au terme de ces quelques heures de patrouille. Si les Russes vous voient, parce qu'ils doivent bien vous voir quand même de temps en temps en train de patrouiller avec vos camarades, quel risque vous encourez ?
Le risque s'est accru depuis que nous sommes partis nous battre en Ukraine, les Russes le savent. Nous sommes sur leur liste, considérés comme terroristes. Le risque qu'ils tirent sur nous est très élevé désormais. Ils ont des ordres, soit de tirer sur nous, soit nous enlever pour nous prendre en otage. Naturellement, ils en ont très envie.
Le risque d'enlèvement, c'est un risque encouru par à peu près tous les gens qui vivent ou qui travaillent autour de cette frontière.
À partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, les Russes enlèvent des habitants qui habitent sur la ligne d'occupation. Il y a environ une centaine de personnes enlevées chaque année.
La guerre de 2008 a fait des milliers de déplacés qui ne pourront jamais retourner dans leur province désormais occupée par les Russes. Le gouvernement de l'époque a donc dû les reloger. Il a fait construire des maisons et même des villages entiers pour pouvoir les accueillir. Et c'est dans l'un de ces villages que nous allons rencontrer Dali, une femme de 65 ans. Quel est votre dernier souvenir de Kemerti, votre village d'Ossétie du Sud ?
Je me souviens quand les bombardements ont commencé. On a pris la fuite. Cette route défile toujours devant mes yeux. Tout le village fuyait, on prenait tout ce qu'on pouvait prendre. On avait pris dans notre petit camion de marchandises 15 villageois entassés sur le bord. Je me souviens du brouillard de poussière causé par les bombes qui explosaient à côté de nous. On ne voyait plus rien. Mais une image reste ancrée dans ma mémoire. Une bombe qui tombe sur une maison. Et là, je vois un lit qui flotte dans l'air. J'ai vu ça. Ensuite, j'ai l'image d'un camion en face de nous, coupé en deux par un bombardement, avec tous les passagers morts. Les routes étaient fermées, la circulation était difficile. Les voitures étaient coincées, on ne pouvait plus avancer. Certains descendaient de voiture et poursuivaient leur fuite par les champs à pied. On est arrivé à Gori et là, la situation était pire. La ville était violemment bombardée.
Quand vous partez, vous n'imaginez pas une seule seconde que vous ne reviendrez jamais à Kemerti.
Même aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ne plus y retourner. Mon mari dit souvent que Dieu fasse que je ne meure pas sans aller voir mon village, même s'il est rasé. Cette terre nous manque à tous. Nous voulons retrouver nos racines. Dans nos rêves, nous sommes là-bas. On vit comme avant.
Comment vous avez réagi le 24 février quand vous avez appris que Vladimir Poutine lançait sa guerre contre l'Ukraine ?
Nous étions tous bouleversés. On est sortis parler entre voisins. Tout le monde insultait Poutine. On disait qu'il allait faire en Ukraine comme il avait fait chez nous. Mais contrairement à nous, beaucoup d'Ukrainiens n'ont pas pu fuir. Ce qui se passe en Ukraine est encore pire qu'ici. On a tellement mal au cœur qu'on ne peut plus regarder la moindre image venant d'Ukraine. Notre blessure a été ravivée par ce conflit. Ça nous a rappelé la douleur des journées de guerre chez nous. On revivait ces heures-là.
Ascenseur avec pièces de monnaie pour monter.
Pour que ce soit entretenu. Parce qu'après les chutes de l'Union soviétique, donc tout de propriété en commun s'est abandonné. Et les gens, ils ont commencé à prendre en main de choses collectives. Et donc, ils ont inventé cette idée-là de que l'ascenseur soit payé. Et cet argent va servir à entretenir l'ascenseur.
Merci Irma, notre guide au cours de ce reportage, pour toutes ces précisions. Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Ce sont mes amis. Ils sont silencieux. C'est le premier moment qu'ils sont agités.
Le temps de faire connaissance.
Oui.
David Beritashvili.
C'est
Merci de nous recevoir chez vous, dans votre antre, votre bureau. Il y a une installation, je vais décrire rapidement pour les auditeurs, l'ordinateur, le projecteur sur le mur, parce que pendant 10 ans, vous avez collecté un nombre incroyable de données pour documenter les crimes de guerre qui ont été commis en Géorgie en 2008. Vous avez travaillé essentiellement avec des images satellites. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé ?
Nous avons ramassé 31 000 photos du territoire occupé. Mon travail, c'est un travail qui s'agit de la propriété de ces personnes. Chacun peut démontrer, il peut écrire, voler sa chaîne.
Ils peuvent montrer leur accusation. Ils peuvent accusation
que moi, je possédais une maison, il y avait un jardin, et ça va être juridique les Sarcelli.
C'est une accusation juridique.
Pour le tribunal de Hague.
De la Haye.
Oui. Pour recevoir la compensation de la Russie. C'est la même chose qui se passe en Ukraine. Parce que l'Ukraine, ils sont pas seulement en guerre, ils sont en guerre juridique.
On va décrire aux auditeurs français ce que ça donne. Tout un travail de collecte de données, de photos satellites avant la guerre, juste après la guerre et bien longtemps après.
Ici, on voit chaque village.
Là, c'est le village de Nouli, par exemple. Nouli, comme tout est précis, oui. 507 habitants avant, occupés à 94% par des Géorgiens, arrive le feu de la guerre. Et là,
tsunami russe.
Tout a été effondré, brûlé.
Le premier pas pour les occupants, c'était de enlever de ces maisons tout ce qui était précieux.
Du pillage.
Du pillage. Même chose que dans l'Ukraine, rien n'a changé.
Et là où votre travail va encore plus loin que ces crimes de guerre, c'est que si on prend ce même village en 2010, 11, 12, par exemple, c'est-à-dire bien après la guerre, là, il n'y a plus rien.
Aucune trace.
Tout a été rasé, il n'y a plus de murs.
Au Caucase, c'est Tsalian Intensiurim Senareuloba Sarevela Balachebi Paraven Am Territorias.
Aujourd'hui, sur les images qu'on a, on voit que des plantes qui couvrent ces territoires.
Ertadelti
Une seule chose que les Russes peuvent construire dans des zones occupées, c'est que des bases militaires russes.
Oui.
David nous fait écouter un coup de téléphone qu'il a enregistré il y a 2 ans de cela. C'est la CPI. Alors, c'est quoi ce coup de fil ?
C'est une félicitation de Hague.
De la Haye, le tribunal pénal international de la Haye.
Que les trois premiers accusés sont Kamachin,
ils étaient condamnés.
Et ce sont des personnes microscopiques. I want to make it. Microscopique. Un colonel, un général, mais pas de personne qui est coupable, qui ont ordonné toute cette armée.
Pas de donneurs d'ordre, mais des exécutants.
Oui. Moi, c'était ma réaction, que c'est un canon qui tire sur les petits moineaux. Oui. Arika, papyrus is dromoïda.
Depuis l'annonce fin septembre d'une mobilisation partielle en Russie, des milliers de voitures ont passé la frontière avec la Géorgie. Des hommes qui craignent d'être envoyés au front, des familles aussi qui quittent temporairement le territoire russe avec leurs économies.
À vélo, à pied ou en voiture, ces Russes viennent de passer des dizaines d'heures pour franchir cet unique poste frontière avec la Géorgie. Mais devant notre caméra, leur soulagement n'est pas encore total.
Je ne veux pas que ce soit diffusé dans le monde entier. Il n'y a rien de bon chez nous. Tout le monde est appelé dans l'armée en Russie.
Ces nouveaux arrivants, les Géorgiens sont loin de les accueillir à bras ouverts, inquiets de voir cette population au pouvoir d'achat souvent plus élevé que la moyenne, déstabiliser un pays déjà fragile. On retrouve Vanessa Descoureaux et Irma Inaridze dans une association qui aide les Russes à s'installer dans leur nouveau pays.
Interception sur France Inter.
Je m'appelle Yuri. Je ne vous donnerai pas mon nom de famille. J'ai 35 ans et je suis en Géorgie depuis une semaine.
Pourquoi la Géorgie ?
La Géorgie a toujours été mon rêve comme destination de vacances. Vu la situation, au lieu d'être un touriste, je suis un migrant. Actuellement, la situation politique en Russie est instable. La démocratie est en question. Pour moi, c'est ça le vrai problème.
Le gouvernement géorgien n'a pas voté les sanctions contre la Russie. Donc, pays relativement proche du régime que vous fuyez.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Comment je peux vous expliquer ça? La Géorgie était une solution de transit, parce que je pense partir en Europe comme l'ont déjà fait quelques-uns de mes amis. Quant à moi, j'ai pris ma décision très vite, et la Géorgie était la solution la plus convenable, notamment par rapport à la Biélorussie ou au Kazakhstan, parce que ces pays ne se démarquent pas de la politique de la Russie. Alors qu'en Géorgie, il y a quand même des possibilités d'avancer dans nos vies, de développer nos activités. C'est pour ça que j'ai choisi ce pays. Malgré le fait que la Russie occupe une partie du territoire de Géorgie, les Géorgiens nous accueillent chez eux. J'aimerais bien que dans le monde règne un respect pareil, en dehors de tous les jeux politiques.
Des bénévoles de l'association sont devant leurs ordinateurs en train d'enregistrer les coordonnées, les numéros de passeport des nouveaux arrivants russes qui viennent tout juste de débarquer ici à Tbilissi. Ces nouveaux ne souhaitent pas vraiment nous parler, en tout cas c'est très difficile, au motif, au prétexte, disent-ils, qu'ils ne veulent pas parler de politique. On va voir si on a plus de chance à l'extérieur sur les tables posées en terrasse.
Bonjour, je m'appelle Katerina Kiltaou, j'ai 30 ans, je suis une activiste russe.
Vous qui êtes arrivée dans la première vague d'activistes qui ont fui la Russie au tout début de la guerre en Ukraine, comment vous avez été accueillie par les Géorgiens ?
À vrai dire, ce n'était pas facile. Sincèrement, les relations entre la Russie et la Géorgie sont tendues. On se souvient de la guerre de 1992, de celle de 2008. On sait que 20% du territoire de Géorgie est occupé par la Russie. Voilà pourquoi la situation est difficile entre les deux États. Parfois, les citoyens géorgiens s'en prennent à nous. Au début, au mois de février-mars, il y avait plus de réaction radicale, nationaliste, et ça nous a bouleversés, on venait tout juste d'arriver. Mais c'était verbalement, il n'y a jamais eu d'agression physique.
Parce qu'on entend beaucoup que le pouvoir d'achat des Russes est quand même supérieur à celui des Géorgiens, on entend beaucoup qu'économiquement vous déstabilisez aussi la vie quotidienne de bon nombre de gens ici.
Mais c'est partout pareil, il faut regarder les deux faces de la pièce. Parce que dans notre monde instable économiquement, il y aura toujours ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Pour ce qui est de l'économie, c'est vrai que les prix ont augmenté. Je comprends bien que les Géorgiens s'en inquiètent et même qu'ils se révoltent. Mais si on regarde les chiffres, les statistiques de l'économie locale, c'est sûr que tout l'argent que les Russes ont apporté ici a fait augmenter le pouvoir d'achat des Géorgiens. Et au final, c'est positif pour l'économie du pays.
Je m'appelle Nona Mamoulashvili. Actuellement, je suis le membre du Parlement, député dans le bloc d'opposition, le Mouvement National Uni.
Ces dernières semaines, plus précisément depuis l'appel à la mobilisation dite partielle lancée par Vladimir Poutine, des milliers et des milliers de citoyens russes arrivent ici en Géorgie. Comment vous observez ça, cet afflux ?
Pour un pays qui a 3,5 millions d'habitants, qui a 20% des territoires qui est occupé par l'armée russe, qui a mené la guerre contre la Géorgie, on est en train d'accueillir, et ça c'est un mot qui est assez cynique, le touriste russe qui...
Ce ne sont pas des réfugiés pour vous,
hein? C'est pas les réfugiés. Les réfugiés, il y a les Ukrainiens qui sont réfugiés parce qu'ils fuient la guerre, mais ces gens-là, ils sont en train de déserter, ils sont en train de se fuir parce qu'ils ont le problème financier à cause des sanctions. Ils veulent pas reconnaître que la Russie, elle a mené la guerre ici, que la Russie, elle mène la guerre en Ukraine. Et du coup, ces gens-là, par contre, ils veulent vivre dans un confort, dans un environnement qui est respectueux, qui est agréable pour eux et qui adapte à leurs demandes. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile de comprendre pour nous, pour les citoyens. Il y a plus de demandes aujourd'hui. Ils demandent les écoles russes. Ils demandent que tout le monde leur adresse en leur langue. Ils demandent qu'ils ont le même privilège que les Géorgiens. Ils achètent les biens en Géorgie. Et on voit déjà économiquement, c'est un gros coup pour un petit pays pour la Géorgie. Et deux, il y a le minorité qui n'a jamais existé en Géorgie, même pendant l'Union soviétique. On n'en avait pas la minorité russe en Géorgie.
Cet afflux de citoyens russes va poser des problèmes de sécurité nationale ici en Géorgie? Vous redoutez ça?
C'est un pays qui mène la guerre contre l'Ukraine. C'est un pays qui a mené la guerre contre la Géorgie. Et dans ces cas-là, c'est tout à fait compréhensible que nous, on a le souci pour la sécurité nationale. Mais par contre, ce que nous, on voit, la population voit le danger, le gouvernement, ils nous disent que ça, c'est pas un danger et il faut pas être russophobe et xénophobe. Ça, c'est les arguments que notre gouvernement, il donne quand on fait le discours en disant il faut contrôler la population qui rentre sans contrôle. Parce que pour l'instant, on n'a pas la statistique combien de personnes ont rentré en Géorgie, qui restent. On a plein de questions. Il y a beaucoup de questions parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans le futur? Qu'est-ce que la Russie va demander après? Disons, il y a 600 000 personnes qui ont rentré et 300 000 vont rester en Géorgie. Ça, c'est déjà une minorité qui est créée. Il faudra donner le minimum à ces gens-là.
Or, on connaît la méthode russe qui consiste à protéger les citoyens russes où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est ça?
Ça, c'est le deuxième souci, parce que déjà, on a vu qu'à Douma, ils ont introduit le loi en disant que la Russie, elle peut protéger sa propre population dans les autres pays. Ça veut dire, et on a vu, Poutine, elle a fait plusieurs fois, soit il distribue les passeports, soit il est en train de protéger les Russes ailleurs. Les Russes, ils sont pas protégés dans leur propre pays, mais par contre, Poutine, il veut les protéger quand ils sont à l'étranger. Ils ont mené la guerre avec ces arguments-là.
Ce que vous redoutez, en résumé, c'est de poser les bases d'une possible intervention à nouveau de Poutine ici sur le sol géorgien, avec une telle minorité russe désormais.
C'est la tragédie de notre histoire, de la dernière dizaine d'années, parce que le pays qui a été envahi par la Russie, le pays qui est toujours sous la pression et la guerre hybride de la part de la Russie, on a vraiment beaucoup donné pour la liberté.
La guerre hybride dont parle cette députée, c'est une guerre d'influence où comment Moscou propage sa vision du monde dans un pays qui est pourtant indépendant depuis plus de 30 ans. Alors c'est notamment le cas à travers l'institution la plus respectée du pays, l'Église orthodoxe. Et on va discuter de tout ça avec le théologien Beka Mindiachvili.
L'Église orthodoxe russe est le principal agent du soft power russe. Je parle du patriarcat de Géorgie et de la majorité des prêtres. Parce que d'une part, ils font des sermons en présentant l'Antichrist et expliquant que la Géorgie sera sauvée par la Russie orthodoxe. Et d'autre part, en se basant sur cette doctrine, ils attaquent les valeurs libérales démocratiques géorgiennes, les droits humains, et particulièrement les droits des minorités.
Ça veut dire qu'il y a une différence entre un sermon qu'on peut entendre ici à l'église et le discours du Kremlin, où il n'y a pas de différence?
Le pouvoir russe est basé sur une doctrine valorisant le monde russe et selon laquelle l'Europe est dépravée et immorale. L'Église géorgienne reprend ce message et explique que tout ce qui est immoral chez nous vient d'Europe, que nous devons protéger notre identité et préserver notre souveraineté, que notre chemin n'est pas le chemin vers l'Europe.
Ce que vous nous décrivez, c'est que c'est au-delà de l'influence, c'est une arme en fait qui est utilisée dans les églises.
Le patriarcat de Géorgie, avec sa hiérarchie, est une arme, un instrument dans les mains des Russes. Un des prêtres a dit que chaque famille géorgienne doit accrocher un portrait de Poutine au mur et hisser le drapeau de la Russie sur toutes les maisons. Par exemple, un autre prêtre, haut placé, a dit qu'il faut soutenir la Russie pour qu'elle réunifie le monde slave orthodoxe contre l'Ukraine et que donc nous devons la soutenir dans cette guerre et faire partie de cette zone d'influence.
Et le patriarche, lui, il a des acquaintances connues avec la Russie ?
Depuis la guerre de 2008 et jusqu'à aujourd'hui, le patriarche est le seul que le pouvoir russe rencontre. Que ce soit Medvedev, le premier Poutine et Poutine II, seul le patriarche de l'Église de Géorgie rencontre ces gens. Et il dit que Poutine est un homme bon, qui ne veut que du bien à notre pays. Et même qu'en 2008, c'est le stupide gouvernement géorgien qui a commencé la guerre.
Allocution du président Vladimir Poutine au Forum de Valdaï le 19 septembre 2013.
Un autre défi important pour l'identité de la Russie est lié aux événements qui ont lieu dans le monde. Nous pouvons voir comment beaucoup de pays euro-atlantiques sont en train de rejeter leurs racines, dont les valeurs chrétiennes qui constituent la base de la civilisation occidentale. Ils sont en train de renier les principes moraux et leur identité traditionnelle, nationale, culturelle, religieuse et même sexuelle.
On a rendez-vous avec le père Zaza dans son église, église Saint-Nicolas. Le père Zaza est connu pour ne pas suivre la ligne officielle et par conséquent, il subit un certain nombre de représailles depuis des années. C'est une petite église, l'église Saint-Nicolas. Elle est perchée dans un quartier assez touristique. Donc il y a pas mal de passages autour des touristes, mais assez peu de personnes, assez peu de fidèles à l'intérieur.
Les gens qui choisissent le petit chemin étroit de la vie doivent savoir qu'ils vont rencontrer des obstacles. Ils peuvent te virer de l'Église, t'enlever ton statut dans la hiérarchie, te faire peur. Ils peuvent faire beaucoup de choses pour t'amener à nier tes valeurs, qui sont importantes pour ta dignité personnelle. Mais que faire ? Ça arrive. Moi, jusqu'à présent, je continue à travailler dans ce contexte. Je ne sais pas comment c'est possible. Peut-être que je ne suis pas suffisamment insupportable pour eux.
Quel type de répression, quel type de pression vous avez subi ?
J'ai subi des attaques physiques menées par des milices. Pas une seule fois, plusieurs agressions. Il y a eu des pétitions lancées pour demander le départ de l'église du père Zaza. Parce qu'il ne nous convient pas, il est un ennemi de l'église. Parfois la pression est mise sur ma famille. À une époque, ma femme et mes enfants étaient montrés du doigt dans la rue. Regarde, c'est la famille du père Zaza. Avec ces méthodes, les paroissiens s'éloignent de toi. Ils ne sont plus à tes côtés. J'avais beaucoup de fidèles, plus d'un millier, mais aujourd'hui, je les compte sur les doigts d'une main.
Cette présence, cette pression invisible de Moscou, elle est constante, prête à surgir à chaque tentative de rapprochement avec Bruxelles. La population, à 80%, imagine un avenir au sein du bloc des 27 et le discours officiel des membres du gouvernement n'est pas différent. Mais alors qu'elle a longtemps fait figure de favorite dans la course au statut de candidate à l'Union européenne, la Géorgie a vu au printemps dernier l'Ukraine et la Moldavie lui passer devant, n'obtenant qu'un petit strapontin. Tbilissi a pris du retard sur les réformes nécessaires. Alors les responsables politiques rêvent-ils réellement d'Europe? C'est la question que Vanessa Descoureaux est allée poser à Gheorghe Khelachvili, vice-président de la Commission des affaires étrangères au Parlement et membre du parti au pouvoir.
Interception sur France Inter.
This was a strange.
C'était une décision étrange, parce que si l'Europe est synonyme de normes, de règles et de procédures, alors parmi les trois pays, la Géorgie mérite le statut de candidate plus que les autres. Alors nous avons exprimé notre déception. Et la meilleure illustration de cette disparité est que si l'on prend les préconditions demandées aux trois pays pour prétendre à être candidat, celles de la Géorgie sont certainement les plus légères et les moins exigeantes des trois. Alors nous comprenons que la politique est un sujet compliqué. Nous comprenons aussi qu'en ce moment, l'Ukraine subit une sévère agression de la part de la Russie et que la Moldavie souffre beaucoup. Mais il semble que les sacrifices que nous avons faits au début des années 90 et en 2008 ont été en quelque sorte oubliés. Et alors que l'Ukraine fait face à la catastrophe actuelle, bien sûr que c'est pour une raison émotionnelle que la décision en faveur du statut de candidat a été attribuée à la Moldavie et à l'Ukraine, et non à la Géorgie.
Vous avez évoqué la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le gouvernement n'a pas voté de sanctions contre la Russie, contrairement à tous les autres pays européens ? Parce que pour nous, objectivement, c'est assez difficile à comprendre.
C'est encore un exemple de la différence entre la perception et les faits. Nous avons approuvé toutes les sanctions internationales imposées à la Russie, y compris les sanctions bancaires, etc., etc. Ce que nous n'avons pas suivi, ce sont les sanctions bilatérales. Et nous avons fait ça par prudence, parce que quand vous connaissez la structure des relations économiques entre la Géorgie et la Russie, alors prendre des sanctions contre la Russie ne lui causerait pas le moindre dommage. Mais ça décimerait l'économie géorgienne. Par ailleurs, les troupes russes stationnent en Géorgie, dans les territoires occupés. Elles sont à 500 mètres seulement de la principale autoroute reliant l'Est et l'Ouest. Donc elles peuvent avancer sur notre sol en quelques minutes. Nous l'avons fait pour protéger la Géorgie, pour ne pas causer une nouvelle guerre sur notre sol, ce qui aurait été nuisible, pas seulement pour la Géorgie, mais pour toute la région.
Bruxelles demande à la Géorgie notamment de mettre fin à la polarisation politique.
L'ancien président Saakashvili est emprisonné depuis son retour au pays.
Des progrès en matière de liberté de la presse.
Le directeur d'un média d'opposition est détenu depuis mai dernier.
Enfin, de lutter contre la mainmise d'oligarques sur l'économie.
Le fondateur du parti au pouvoir a fait fortune en Russie et entretient des liens troubles avec Moscou.
Nous sommes aux côtés de Nodar, 25 ans, un des cofondateurs de l'association qui s'appelle Shame, qui est une association qui réclame, attend et rêve d'Europe pour la Géorgie. Et nous sommes devant deux grands écrans d'ordinateur pour regarder quelques vidéos avec vous.
I am extremely happy and proud that I
Je suis extrêmement heureux et fier. Je suis avec le mouvement Shame à l'origine de la plus grande manifestation de l'histoire de la Géorgie. C'était sans précédent. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Plus de 160 000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le gouvernement, mais aussi pour montrer leur attachement à nos valeurs européennes, notre culture européenne. Ce jour, le 20 juin 2022, c'est un jour que je n'oublierai certainement jamais de toute ma vie.
Ça vous a surpris de voir autant de monde ?
Je n'aurais jamais imaginé voir tant de monde, c'est rubondé. Planifier toute cette opération a été très stressant. On a dû essuyer des attaques permanentes. Les médias d'État qui sont contrôlés par le parti gouvernemental ont saturé les infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec nous. Les sujets étaient là pour nous décrédibiliser. Mais ce n'est pas tout. La présidente actuelle, Salomé Zourabichvili, est venue à un point presse. C'était 4 ou 5 jours avant notre rassemblement. Elle s'est adressée à nous, les organisateurs, et nous a demandé de l'annuler, parce qu'il représentait un risque. J'étais choqué.
Ce qui est étonnant, c'est que cette présidente, qu'on a d'ailleurs entendue sur les antennes françaises, cette présidente, ce gouvernement, sont supposément en faveur de l'Europe. Donc on a du mal à comprendre le double standard, le double langage.
Le parti Rêve géorgien a une politique pro-européenne, sur le papier. Mais ce qu'ils font, c'est quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle de la coopération avec la Russie. Je prends souvent cet exemple pour expliquer comment procède ce parti pour doucement ramener la Géorgie vers la Russie. Imaginez, vous prenez de l'eau bouillante, vous y mettez une grenouille. Si vous montez la température doucement, la grenouille va se laisser cuisiner sans même s'en apercevoir. Mais si vous montez la température de l'eau très fort et très vite, la grenouille va immédiatement sauter hors de l'eau. C'est ce qui arrive à l'État et à la société géorgienne. Nous sommes cuisinés à petit feu, amenés doucement vers la Russie.
Voilà, là, tu as une statue assez soviétique d'un petit garçon, une fille qui a les mains en haut et autour tu as des poteaux sur lesquels c'est marqué l'alphabet géorgien, notre propre langue. Et cet parc, justement, nous nous retrouvons maintenant, ça s'appelle le parc de la langue géorgien qui porte le nom de notre langue maternelle.
Et avant, il s'appelait comment ?
Avant, ce parc s'appelait le nom de Staline.
Et alors, si on est ici, Irma, c'est parce qu'il y a un rassemblement de l'opposition. Et ça a du sens de se retrouver dans un parc qui s'appelle comme ça.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment symbolique aussi, parce que nous sommes toujours dans cette période, dirais-je, post-colonialiste, quelque part, de cet empire soviétique. Donc aujourd'hui, l'opposition s'est réunie ici pour donner des avis, comment faire. Si les moments arrivent, qu'on soit prêt.
On va aller voir ça.
À 7 heures, je ne sais pas si tout le monde est là déjà, mais les gens commenceront à arriver petit à petit.
Tamara Arveladze, 24 years old. I'm an activist.
Tamara Arveladze, 24 ans, je suis une activiste. Quand la guerre en Ukraine a commencé, la première chose qu'a dite notre Premier ministre, c'est « Voilà, c'est ce que l'Ukraine a récolté avec sa politique. » Donc il parvient à présenter l'attaque russe comme étant de la faute des Ukrainiens. C'est impossible de raisonner comme ça. Quelle ironie, quel énorme mensonge. Avant l'invasion russe en Ukraine en février, c'était plus simple pour le parti au pouvoir, Rêve géorgien, de masquer ses réelles aspirations sur le plan international. Depuis la guerre, ils doivent répondre impérativement à des questions. Qui soutenez-vous? Soutenez-vous un régime de sanctions? Êtes-vous contre la Russie? Le parti gouvernemental doit répondre à ces questions. Et c'est ainsi qu'ils ont montré à la société leurs véritables aspirations. Je veux ajouter quelque chose. Désolée, je parle trop, mais je veux préciser. Avant la guerre, Volodymyr Zelensky est venu en Géorgie pour une visite d'État et il voulait aller voir la ligne de démarcation. C'est là que quasiment tous les jours, les occupants changent le tracé des lignes et la place des checkpoints. Il voulait voir cette partie du territoire, il l'a visitée. Aucun officiel du parti gouvernemental ne l'a accompagné. Il était seul avec sa propre délégation.
Il n'y avait pas d'officiel.
Non.
Pas le Premier ministre, pas de représentants, personne n'était avec Zelensky. Et quand le principal porte-parole du parti au pouvoir a été interrogé sur ça, on lui a demandé « Ok, vous n'êtes pas allé avec Zelensky, mais êtes-vous déjà allé sur la ligne de démarcation ?» Il a dit « Non, pourquoi ce serait nécessaire ?» La plupart des Géorgiens y sont allés, parce que là-bas, on voit bien à quel point la Russie est dangereuse. Et à quel point l'occupation est terrible.
Vous êtes allé là-bas?
Oui, j'y suis allé plein de fois. Ils peuvent critiquer Zelensky, ils peuvent critiquer ceux qui devraient plutôt être salués par la Géorgie, parce que l'Ukraine joue sa survie, la nôtre, celle du monde entier face à la domination russe. Et qu'est-ce qu'on fait? On les attaque. Et ce parti au pouvoir n'a jamais soutenu les soldats géorgiens qui combattent et qui meurent sur les champs de bataille en Ukraine contre la Russie.
Ils ont même refusé le décollage d'un vol de combattants géorgiens pour se rendre en Ukraine, c'est ça?
C'était des volontaires qui s'étaient réunis. Ils voulaient partir combattre à côté de nos frères ukrainiens. Parce qu'on a le même ennemi et le gouvernement a interdit ce vol. Évidemment, ils avaient payé eux-mêmes les frais pour aller les combattre, mais le pouvoir a tout fait pour les empêcher de rejoindre l'Ukraine.
Quelle était la raison officielle avancée ?
Ne pas provoquer le gouvernement russe. Celui qui doit être satisfait est au Kremlin. Et c'est ce qu'on ressent tout le temps. Je sens que, face à la Russie, mon gouvernement n'est pas de mon côté. C'est la tragédie de notre existence.
Géorgie, la première Ukraine, un reportage de Vanessa Descoureaux avec Irma Inaridze, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Jean-Benoît Tétu. Un reportage à réécouter dès maintenant sur le site de France Inter.